À mes côtés, Cécile Filiozzi, qui est directrice des archives départementales d'Eure-et-Loire. Et on va faire un petit voyage ensemble à la recherche d'un temps perdu. Et là, vous comprendrez évidemment que c'est en rapport avec le printemps proustien. Une très belle exposition sur la belle époque en Eure-et-Loire, donc visible jusqu'au 12 juillet. Il vous reste encore quand même quelques jours pour la découvrir. Il faut absolument venir. Vous allez nous faire découvrir, Madame la directrice, cette époque surprenante. C'est une époque où plein de choses commencent, j'ai le sentiment, non ?
Ah oui, c'est complètement ça. Et puis, je pense que le terme le plus adéquat pour définir la belle époque, c'est vraiment contraste. On oscille entre des avancées qui sont extraordinaires sur le plan de la santé, de l'hygiène, de l'économie, de la politique. Et en même temps, on reste quand même sur une époque qui est incroyablement difficile et complexe.
Particulièrement pour notre département d'Eure-et-Loire, pour un certain nombre de gens.
Oui, tout à fait. Alors après, on a à cette époque-là des caractéristiques qu'on retrouve encore aujourd'hui, le côté extrêmement rural, extrêmement agricole, mais on a trouvé aussi qu'on était un département qui était, sur le plan démographique en tout cas, plutôt en perte de vitesse, et ça nous a assez étonnés.
Oui, on va justement commencer par la démographie. C'est très étonnant, c'est que la Beauce et le Perche, peut-être plus la Beauce, je ne sais pas, se dépeuplaient à vue d'œil. Comment ça se fait ?
Alors déjà, c'est une période qui est caractérisée par une perte en naissance qui est assez, qui tranche en fait avec les périodes précédentes. On perd à peu près 12 000 habitants entre le début de la Belle Époque, hein, donc dans les années 1890 à peu près, à la veille de la Première Guerre mondiale, on a perdu quand même pas mal d'habitants. Donc on limite les naissances, des comportements sociaux qui évoluent.
C'est quoi ces comportements sociaux qui évoluent ?
Alors, je pense qu'on peut retenir la baisse de la pratique religieuse, donc la limitation volontaire des naissances, et puis aussi une forme d'inquiétude par rapport à l'avenir, un certain pessimisme qui n'encourage pas forcément à avoir beaucoup d'enfants.
Ça veut dire qu'on sentait venir la guerre quand même pas ?
Je dirais pas qu'on sentait venir la guerre, ou en tout cas on n'envisageait pas la saignée que ça allait être, ça c'est certain. Mais il y a déjà de manière très très prégnante dans la presse et dans tous les esprits cette hostilité très très forte par rapport à l'Allemagne. On sent quand même que les esprits commencent à s'échauffer.
Vous parliez d'une baisse de la pratique religieuse. La Beauce, peut-être plus la Beauce que le Perche, en tout cas, bon, on va dire l'Eure-et-Loire globalement. C'est un département qui n'est pas très catholique, si j'ose dire.
Non, pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué, quels que soient les sujets qui étaient abordés, je pense notamment à la politique, on a un département modéré, qui a des opinions tout à fait modérées et qui voit venir les choses avec un certain flegme et un certain détachement. Ce qui n'est pas neutre à la Belle Époque, d'ailleurs, on parle de religion, c'est quand même la période de la séparation des Églises et de l'État, qui a pu être très conflictuelle dans d'autres départements en France.
Ici, ça s'est passé tranquille.
Dans le calme. Il y a eu des incidents, mais on était plus de l'ordre de la résistance passive ou oui, calme, recul, flegme.
Alors là, je suis en train de regarder voilà, les affiches qui sont au mur, les panneaux, et là, on s'aperçoit aussi que peut-être les progrès de la médecine ont fait que ça se passait mieux pour les gens quand même, non ? Je vois les vaccinations obligatoires, mesures contre le choléra.
Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de contraste. On disait qu'il y a moins de naissances, mais il y a aussi une mortalité qui recule. Et comme vous le soulignez, le rôle de la médecine est décisif à cet égard. On est quand même quelques années après les découvertes majeures de Pasteur, et il y a encore ses disciples, Calmette, Roux, Guérin, qui sont encore en activité dans ces années-là. On n'a plus ces grandes épidémies qui ont caractérisé encore le milieu du 19e siècle. Donc, sur ce plan-là, effectivement, les choses s'améliorent.
Ouais. On s'aperçoit que le gouvernement n'a rien inventé en pratiquant la vaccination obligatoire. Tiens, c'était obligatoire. Hein.
C'était obligatoire, comme le montre une des affiches qui se trouve dans l'exposition. Oui, tout à fait.
Le choléra était présent dans le département ?
Il était encore présent de manière beaucoup plus sporadique et limitée que dans les années 1830-1840. Il était encore là, mais plus, comme je le disais, sous la forme de ces grosses épidémies ravageuses du début du 19e siècle. C'est plus la tuberculose qu'on va retrouver dans ces années-là.
On va avancer un petit peu et vous allez nous dire, tiens là par exemple, voici une étuve La désinfection, qu'est-ce que c'est que ça?
Ben, ça rentre aussi dans tout ce chapitre sur la santé et l'hygiène. On commence à se préoccuper de purifier les intérieurs. Hein. On a trouvé dans beaucoup de sources le côté extrêmement insalubre et très confiné de nombre de logements. On pense aux logements ouvriers, évidemment, mais c'était valable aussi pour les grands corps de ferme bosserons qui n'étaient pas toujours très sains. Donc on commence à se préoccuper aussi de ces questions-là. Et tout ce qui est étuves et matériel à désinfection commence aussi à investir les hôpitaux, les asiles et les autres lieux d'accueil de soins.
L'eau a toujours été un problème en Auvergne. Alors la qualité de l'eau, pour des raisons différentes aujourd'hui, bien sûr.
Oui, complètement. C'est totalement le cas à cette époque-là. Et on a retrouvé dans les archives énormément de pièces qui montrent que dans les communes, on commence à se préoccuper de cette question. On met en place des règlements d'assainissement, du retraitement d'eau. Alors c'est embryonnaire encore à cette époque-là, mais la préoccupation est clairement là.
Alors, les structures sociales, quelles sont-elles ?
Alors, je pense que je ne surprendrai personne en disant que l'Eure-et-Loire est un département qui est composé essentiellement de ruraux à cette époque-là. L'exode rural commence déjà néanmoins à frapper à la porte, mais on est encore un département rural. L'arrondissement de Chartres est le plus peuplé. Là aussi, ça ne change pas forcément par rapport à aujourd'hui. Et le Perche, en revanche, reste le département le moins peuplé avec ce petit habitat dispersé comme on peut le connaître encore aujourd'hui.
Alors là, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des agriculteurs qui vivent, ils vivent plus dans leur ferme, ils vivent à Chartres, chez les Beaucerons. À l'époque, quelle était la composition sociologique de la population chartraine pour s'en tenir à Chartres?
Alors la population chartraine, on ne l'a pas étudiée spécifiquement dans le cadre de l'exposition. On est sur une population forcément qui est beaucoup plus mêlée que ce qu'on peut observer dans les campagnes, avec une répartition par catégorie socio-professionnelle, si je peux utiliser ces termes un peu contemporains pour parler de cette époque, qui est beaucoup plus variée. On va trouver plus de commerces, plus de professions libérales, plus de personnes qui travaillent dans les administrations, puisque assez logiquement, elles sont assez concentrées à Chartres. Donc on a une structure sociale qui est assez variée. Ce qui peut être intéressant aussi en termes de société, c'est que l'Eure-et-Loire, à cette époque-là, n'est pas un département, n'est pas une terre d'immigration. Contrairement là aussi à ce qui peut s'observer dans d'autres départements français, il y a une immigration, ça c'est sûr, elle est très très liée au phénomène du travail saisonnier et elle concerne essentiellement des Belges. Là aussi c'est un trait assez original puisque dans beaucoup d'autres départements c'est plutôt les Italiens qu'on va retrouver comme catégorie et ce sont des personnes qui ne s'implantent pas en fait en Eure-et-Loire, qui restent pour le travail saisonnier et qui ensuite repartent.
Une ville ultra-urbaine aujourd'hui comme Dreux, à quoi ressemble-t-elle à l'époque? Est-ce que vous pouvez nous le dire?
Eh ben, je pense qu'elle n'était pas forcément très très différente de ce qu'elle était aujourd'hui en termes de structure et de population. En effet, on a pu voir dans nos recherches que c'était une des villes les plus industrialisées du département avec Nogent-le-Rotrou, donc avec aussi une composante ouvrière et populaire déjà très marquée à l'époque.
Alors on va continuer d'avancer. L'agriculture est en mutation, c'est le début de la mécanisation.
Oui, c'est ça. On est vraiment au balbutiement de la mécanisation agricole. On parlait tout à l'heure du début de l'exode rural. Il y a certainement là aussi peut-être un lien à faire. Alors l'agriculture, c'est vraiment la grande affaire en termes économiques, puisque là aussi, c'est quelque chose que tout le monde a bien en tête, mais qui n'est pas toujours inutile de rappeler, c'est qu'on est un département rural, d'économie rurale. Et l'agriculture de ces années-là, elle se montre particulièrement vigoureuse avec une augmentation de la productivité qui est très très forte, une restructuration des parcelles vers de plus grandes parcelles et une influence absolument décisive des syndicats agricoles qui vont largement contribuer à un meilleur usage des sols et également à une pédagogie en direction des agriculteurs qui est tout à fait déterminante.
Alors, à noter cependant qu'évidemment, il y avait déjà du blé en Beauce, mais Il y avait encore des animaux. Hein. Quand on traverse la Beauce aujourd'hui, on se dit qu'il manque un règne, c'est le règne animal. Là, il y avait beaucoup de moutons.
Oui, c'est tout à fait juste. On a eu recours très souvent dans les exploitations agricoles à l'élevage. Donc déjà, on est bien évidemment en complément alimentaire, si je puis dire, pour la consommation locale, mais également pour accroître la production de fumier. Donc là aussi, les syndicats ont beaucoup insisté sur ce point-là en disant: l'usage du fumier permet d'enrichir les terres et donc il faut maintenir des animaux dans les fermes.
Il n'y avait pas de pesticides à l'époque.
Alors, je ne sais pas trop si on peut appeler ça des pesticides, mais en tout cas, c'est aussi la grande époque où on se met à utiliser les fameux phosphates, superphosphates et engrais. Là aussi, ça commence largement sous l'impulsion des syndicats.
C'est une vieille habitude, ça va être difficile de s'en défaire. Le rôle du syndicalisme agricole, à part cela?
Alors, donc on a évoqué cette question de l'amendement des terres. À ce titre-là, le rôle de quelqu'un comme Charles-Victor Garola a été absolument décisif. Hein, on en parle largement dans l'exposition. C'est des gens aussi qui ont encouragé les expérimentations. En mettant en place des champs d'expérience agricole, on a quelques documents là-dessus dans l'exposition, ou des écoles pratiques même qui étaient souvent rattachées au groupe scolaire ou au lycée de Chartres aussi, le lycée Marceau qui avait son école d'application agricole qui lui était rattachée. Et les publications, ça aussi, ça a largement contribué à l'éducation des agriculteurs. On peut penser aux bulletins agricoles, etc., qui étaient diffusés gratuitement, faut le souligner, je pense, aux agriculteurs.
Alors, je précise, on démarre cette balade. Évidemment, les auditeurs ne peuvent pas voir les documents. Ils y sont très nombreux. C'est pour ça qu'il faut venir voir l'exposition. Parce que on se rend compte que les archives départementales sont riches de milliers de documents, tous plus intéressants les uns que les autres. Vous avez été épuisés, là.
Ah oui, totalement. Bah là, dans l'exposition, vous avez plus d'une centaine de documents originaux qui vous sont présentés. Alors, rassurez-vous, il y a des panneaux explicatifs et un petit guide d'aide à la visite aussi. Vous ne serez pas tout seul dans l'exposition face aux documents. Et oui, bah, c'est que quelques feuilles dans la forêt de documents qui est conservée aux archives départementales, puisque je vous rappelle qu'on a 23 km linéaires de documents qui sont conservés chez nous.
Alors, l'industrie, commerce et industrie, donc c'est la naissance, c'est un peu la naissance de l'industrie quand même. Bon, il y avait déjà des industries au 19e siècle, mais peut-être pas dans nos régions, par exemple.
Non, c'est juste. L'Eure-et-Loir, comme je le disais tout à l'heure, c'est un département agricole. L'industrie, elle est représentée, mais c'est pas on va dire, le poste économique le plus important. Alors, ce qui est intéressant, enfin, on peut le comparer notamment avec les départements du nord-est de la France, hein, ou du nord, tout ce qu'on connaît de la France industrielle de cette époque-là. Les fleurons industriels de la belle époque que sont le textile et la sidérurgie sont quand même représentés en Eure-et-Loir, il faut le dire, avec pour le textile les filatures Waddington au nord du département et pour la sidérurgie on peut penser aux usines, aux fonderies Brault et Tessé qui se trouvaient à Chartres et qui avaient été primées par l'invention de leur turbine lors d'une exposition universelle. Donc oui, on a eu ça à Chartres. Donc voilà, mais après ça c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Pour le coup, on reste un département de, si je peux utiliser encore un terme très contemporain, pas du tout adapté, mais bon, qui est pratique, c'est de TPE et PME. Voilà, c'est un petit peu l'idée, avec des ateliers essentiellement dans les domaines du textile, du bâtiment, de la construction, et aussi, ce qui peut paraître peut-être un peu surprenant, la filière bois, qui est plutôt bien représentée dans le département.
Tout est encore, finalement, naissant, on le comprend bien, et à taille humaine, hein.
Oui, complètement.
Est-ce qu'on vit assez bien, finalement en Eure-et-Loir à cette époque? Je veux dire, les conditions de vie, est-ce qu'elles sont plutôt difficiles? Si on est ouvrier, par exemple, là, tiens, je vois la sucrerie de Toury, on vit plutôt bien, on vit comment?
Alors, je dirais qu'on ne vit pas très bien, mais que les choses s'améliorent. On ne vit pas très bien parce qu'on reste sur des journées de travail qui sont extrêmement longues, un droit ouvrier, un droit du travail qui est encore balbutiant. On a évoqué rapidement tout à l'heure la question des conditions de vie. Les logements ouvriers étaient d'une insalubrité qui est très connue. L'alcoolisme aussi a fait des ravages parmi cette population et particulièrement à la belle époque où vous aviez, j'ouvre une parenthèse, mais un nombre de débits de boissons qui était absolument phénoménal, hein, rapporté à la population dans chaque commune. Donc les ouvriers, je dirais qu'ils ne vivent pas très bien. Néanmoins, et c'est à mettre en lien aussi avec la naissance du syndicalisme ouvrier, les choses commencent à s'améliorer. Il y a une prise en compte des revendications ouvrières qui est réelle à cette époque-là. Donc les journées de travail commencent à se réduire. Alors ça reste très très long, hein, 10 voire 12 heures par jour, certaines, ça dépend de la période considérée. Les salaires sont également reconsidérés. On met en place le repos hebdomadaire, l'inspection du travail également. Il y a une réglementation sur les accidents, sur les accidents du travail qui tend plutôt à remettre en question la responsabilité de l'employeur et non plus de l'ouvrier. Donc il y a quand même des améliorations qui se font lieu et non des moindres puisque ça concerne aussi le travail des enfants qui commence aussi à être limité à cette période-là.
On est quand même, on n'est pas trop dans la France de Proust, plutôt dans celle de Zola, là, hein, finalement.
Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que nous, on s'est attaché vraiment à retracer le contexte de la Belle Époque. Et oui, on est plus dans Zola sur ces aspects-là.
Il a écrit La Terre, d'ailleurs, je vous le rappelle. Il faut que les auditeurs lisent La Terre de Zola qui se passe en Beauce. Alors là, la compagnie des tramways, on circule beaucoup en tramway.
On circule beaucoup en Eure-et-Loir. Alors ça, c'est quelque chose qui nous a énormément surpris et qui nous a vraiment totalement intéressé quand on a travaillé sur l'exposition. C'est, on le sait, la Belle Époque fait aussi référence au progrès technique. Et l'Eure-et-Loir a été particulièrement dynamique dans ce domaine-là. Alors oui, vous évoquiez la compagnie des tramways d'Eure-et-Loir. Le département est un des mieux couverts par le réseau de tramways. Donc il y a une compagnie des tramways qui est fondée en 1897 et qui va structurer un réseau. Donc il y a deux cartes qui sont présentées qui montrent le réseau avant, en début de période et juste avant la Première Guerre mondiale. Et on voit les progrès qui ont été réalisés. C'est impressionnant.
On circule en tramway partout
Pas partout, mais c'était un réseau qui était un petit peu structuré en étoile autour de Chartres et de Dreux aussi un petit peu. Et oui, on pouvait aller assez loin. Donc le tramway, c'est une chose, mais il y a aussi la voiture qui va être adoptée très rapidement par les Euréliens. Donc vous avez plusieurs documents là-dessus. Et la bicyclette aussi, c'est vraiment...
La petite reine.
Mais oui, c'est ça, c'est la grande époque de la petite reine, en lien bien sûr avec l'invention du pneumatique. Donc les Euréliens vont adorer immédiatement ce mode de circulation, à la fois pour des raisons très pratiques, hein, se déplacer plus facilement, mais aussi en loisir et par plaisir. Ça va fonctionner très très bien avec les Euréliens. Peut-être parce que c'est plat, je ne sais pas.
Oh, c'est du faux plat à Chartres, hein, quand même. Mais c'est indémodable, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a une maison du vélo à Chartres Métropole. Quoi. Le vélo ne se démode pas. C'est aussi le commencement du Tour de France. On a une petite part là-dedans, je crois, à l'Eure-et-Loir, dans la création du Tour, non?
Alors, le Tour a été créé en 1903, effectivement. Donc, on est en plein dans la Belle Époque. Et il me semble, effectivement, qu'une des étapes du premier Tour passait par l'Eure-et-Loir. Ouais.
La politique, bien évidemment, déjà... Et la République, est-ce qu'on est des républicains? Est-ce qu'on est plutôt des royalistes ici en Eure-et-Loir?
Ah non, on est des républicains.
On est des fervents républicains.
Alors ça, c'est très, très intéressant aussi. Alors, on s'est questionné hein, déjà au long de l'échange que nous avons jusqu'à présent sur est-ce que c'était une belle époque, oui ou non. Sur le plan de la politique, là, très clairement, oui, c'est une belle époque. On a atteint un niveau de débat qui est d'un intérêt vraiment considérable. On a des avancements législatifs qui fondent aujourd'hui le socle hein, de nos valeurs républicaines. Elles ont été faites dans ces années-là.
Vous pouvez en citer quelques-unes?
Oui, bien sûr. Moi, je pense à la laïcité, bien sûr. C'est la première qui me vient à l'esprit, mais aussi toutes les libertés qui ont été acquises dans ces années-là, liberté de presse, etc. Enfin, c'est vraiment des choses qui aujourd'hui sont au cœur de nos valeurs et qui sont nées pendant la Belle Époque. C'est aussi l'époque où vont se côtoyer des personnalités comme Jean Jaurès ou Georges Clemenceau. Enfin, on a quand même une Raymond Poincaré. Enfin voilà, on a quand même une c'est très brillant quoi comme époque sur le plan de la politique.
Et violent hein, parce que entre Clemenceau, Jaurès, Aristide Briand, Raymond Poincaré, c'est très violent. Hein.
Oh oui, c'est très violent. Bah, d'ailleurs, les débats qu'on peut retrouver dans les journaux sont d'une violence extrême, effectivement. Et puis, je crois que chacun de ces gens se sont régulièrement battus en duel. Et notamment, un de nos politiques euréliens de l'époque, Paul Deschanel, me semble-t-il, s'est également battu en duel.
Avant de tomber du train, là.
Oui, c'était avant, contre contre, Clémenceau, me semble-t-il, a vérifié, mais il me semble bien, et qu'il a perdu son duel par ailleurs.
Il a perdu contre le tigre, évidemment. Bah, oui. Paul Deschanel, donc Aurélien, qui a été président du Conseil, c'est ça hein.
Je crois qu'il est passé par à peu près toutes les fonctions politiques possibles et imaginables. Il n'y en a qu'une qu'il n'a pas exercée, me semble-t-il, qui est d'être maire. C'est la seule fonction, je crois, qu'il n'a pas assumée.
Quand je dis qu'il est tombé du train, rappelons à nos auditeurs qu'il a eu un destin tragique. Hein. Je crois qu'il est tombé peu à peu dans une forme de démence.
Oui, il avait une maladie effectivement qui l'a empêché à la fin de sa vie d'exercer pleinement ses fonctions. Oui, tout à fait.
Comment ne pas parler de Maurice Violette, grand personnage de la vie politique aurélienne et au-delà même de l'Eure-et-Loire.
Oui, totalement. Alors c'est ça aussi qui est très intéressant quand on étudie la politique dans ces années-là, c'est qu'en fait on voit apparaître des personnalités qui ont vraiment marqué l'histoire de notre département. On évoquait Paul Deschanel à l'instant, mais Maurice Violette fait ses débuts en politique à la Belle Époque et il est vraiment l'héritier de cette tradition républicaine de la Belle Époque.
Ouais. Il a été gouverneur général de l'Algérie et figure du Front populaire aussi.
Oui, complètement. Il a été ministre à cette époque-là, oui.
Et maire de Dreux pendant combien de temps? Je crois que c'est presque 50 ans. C'est énorme, hein, il me semble.
Oui, c'est quelqu'un qui a marqué notre département et la ville de Dreux en particulier, oui, tout à fait.
Est-ce qu'on est plutôt donc à droite, à gauche, est-ce qu'il y a l'Action française, par exemple, qui était très puissante à l'époque, ou est-ce qu'on est plutôt au RATSOC?
Alors, on est un département assez modéré, en fait. On est républicain convaincu. La République est vraiment fermement enracinée dans notre département. Et on constate un vote qui est régulièrement du côté, effectivement, de ces partis qu'on va appeler les républicains de gauche et les radicaux qui vraiment tiennent le haut du pavé en Eure-et-Loire dans ces années-là. Le spectre, en fait, est assez étroit. Les Eure-et-Liens votent massivement dans cette direction-là. Et on va dire que les expérimentations les plus extrêmes, si je puis dire, que ce soit de l'extrême gauche ou effectivement l'influence des ligues telles que l'Action française, est mineure dans le département.
En fait, on s'occupe de ces affaires, j'ai l'impression, on en bosse.
Oui, c'est ça, c'est ça.
On va aller parler de la presse parce que on peut être nostalgique de cette époque où les journaux florissaient.
La Belle Époque, c'est la belle époque de la presse, ça c'est certain. Pour l'Eure-et-Loire, vous avez 37 titres qui cohabitent pendant cette période-là, donc c'est absolument phénoménal. On n'imagine plus ça aujourd'hui, avec à chaque fois un tirage qui est assez impressionnant. Enfin, il y a beaucoup de titres et ils ont chacun leur lectorat. Et ça, c'est vraiment une source pour nous de premier plan pour comprendre l'histoire de la Belle Époque et ce qui se passe en Eure-et-Loire dans ces années-là.
Ces journaux, est-ce qu'ils sont consultables d'ailleurs aujourd'hui aux archives départementales?
Oui, tout à fait. Ils sont consultables chez nous. Il y en a d'ailleurs une très très grande partie qui est accessible gratuitement, librement sur notre site internet. Donc n'hésitez surtout pas à aller les consulter.
Je vois le journal de Chartres qui annonce le décès le plus célèbre de l'histoire de la République française, celui de Félix Faure.
Oui, c'est ça, celui de Félix Faure. Donc je laisserai les auditeurs se renseigner par eux-mêmes sur les circonstances du décès du président Félix Faure. Le journal de Chartres, c'est intéressant que vous le mentionniez, car il était politiquement extrêmement marqué du côté des conservateurs. Il a une lecture des événements de la Belle Époque qui est assez intéressante. C'est la voix de la droite eurélienne, ça c'est sûr. Et on le voit dans la lecture qu'il fait des événements comme la séparation de l'Église et de l'État, qui est un véritable traumatisme pour le journal de Chartres, ou l'affaire Dreyfus, qui est bien évidemment la grande affaire politique.
Oui, ici aussi, elle a créé des remous.
Ah oui, 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 tout à fait. Ouais, elle a créé des remous. Bah, déjà, elle a obligé les personnalités politiques du département à se positionner par rapport à ça, et les journaux l'ont fait également en entraînant quelque part à leur suite leur lectorat. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, on lit dans le journal de Chartres des commentaires d'un antisémitisme, d'une violence extrême. Donc ça aussi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la violence des combats politiques. Elle se transcrit largement dans la presse avec des filtres que nous n'avons, qu'il n'avait absolument pas à l'époque.
Il y avait autant de Dreyfusards que d'anti-Dreyfusards, c'est une composition
C'était, il me semble que la modération aurélienne s'est aussi transcrite dans ce moment-là, dans ces circonstances-là. Donc il n'y a pas eu forcément de positionnement très très clair à ce moment-là, mais peut-être plutôt du côté des Dreyfusards.
On arrive au terme de la visite. Ça se termine évidemment avec l'ordre de mobilisation générale de 1914. On va laisser les auditeurs de Radio Rancière venir découvrir tout ça par eux-mêmes. L'exposition est visible aux heures d'ouverture des archives, c'est-à-dire
Alors c'est du lundi au vendredi de 9h à 17h30, 16h le vendredi. L'entrée est libre et gratuite.
Jusqu'au 12 juillet.
Jusqu'au 12 juillet.
Et éventuellement, on peut avoir des petites explications si on demande.
Oui, vous avez un guide d'aide à la visite et puis le personnel également qui est présent dans le bâtiment pourra répondre à vos questions s'il y en a.
Merci beaucoup de cette balade, merci.
You got a bloody right to say.